Vous écoutez France Culture. À voix nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Ce soir, l'appel de l'Espagne.
Bonsoir, Florence Delay. Florence Delay, vous êtes écrivain, essayiste, traductrice, comédienne, scénariste. Vous avez été professeur de littérature générale et comparée à la Sorbonne. Vous êtes aujourd'hui membre de l'Académie française. Nous évoquions hier votre enfance. Nous avons aussi parlé de votre père, le célèbre psychiatre Jean Delay. Florence Delay, vous êtes aussi hispaniste, agrégée d'espagnol. Vous avez traduit du théâtre, de la poésie, des essais. Ce soir, dans l'appel de l'Espagne, c'est donc l'une de vos grandes passions dont nous allons parler. Car l'Espagne est bien plus qu'un champ d'études. Et première question, comment un pays, sachant l'immense réalité que cela recouvre, peut-il être l'objet d'une passion ?
Je pense que pour chacun, c'est différent. On a tous des pays qui déclenchent en nous des rêves ou des études. Je crois que ce qui a été déterminant en Espagne, pour moi, ça a été la poésie et la prose. Je crois que
langue avant tout.
Oui, la langue et la poésie et le théâtre espagnol. Même si j'ai des souvenirs d'enfance qui sont autres. Par exemple, ma mère me rapporte de Saint-Sébastien une poupée qui s'appelle Mariquita Pérez avec un vestiaire absolument merveilleux. Même si aller avec ma mère, passer la frontière, était une fête. Même si à Bayonne, il y avait une rue qui s'appelait la rue d'Espagne et on avait l'impression qu'on prenait la rue d'Espagne et qu'on arrivait en Espagne. Même si de très loin de la maison de mes parents, à Miradour, on voyait un peu de Pyrénées, il y avait cette présence proche, certainement. Mais ce qui a véritablement a commencé à m'envahir, ça a été la poésie de Lorca, puis le théâtre de Calderón, puis enfin toute une littérature magnifique, qui était, comment vous dire, choisie par moi. Tout ce qui était français était donné. J'étais française, ma langue maternelle était le français, mais l'autre langue, c'était celle que je choisissais. C'était une langue non maternelle. La langue des aventures, la langue de la formation, la langue d'un autre moi. Et la passion a monté. Voilà.
Et pourquoi l'espagnol, Florence Delay ? Pourquoi pas l'anglais ?
Je pense qu'il y a eu la proximité du Pays basque et de l'Espagne, et cette chose qui était ce pays si proche. Mais j'ai eu une passion aussi pour l'anglais, mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Mais j'ai pu à une époque lire Shakespeare. Et puis je vais vous dire, je suis très contente au fond, parce que combien d'écrivains parmi nous ont choisi l'Angleterre et l'Italie. On n'est pas très nombreux avec l'Espagne. On n'est pas très nombreux. Et donc, ça m'a donné, plus d'oxygène.
Est-ce que la première bouffée d'oxygène, c'est cette année de vos 15 ans, 1956, où vous découvrez l'Espagne pour un séjour long, un séjour de langue ? C'est ça, là ? La première bouffée d'oxygène ?
Oui, vraiment. C'est le train que je prends pour la première fois. Ma sœur me met au train Irún-Barcelone. Et j'arrive à Barcelone pour un été dans une famille que je ne connais pas. Je parle très mal et j'ai la chance de tomber dans une famille enchantée, en pleine campagne. Une famille poétique, en fait. Et donc, je suis arrivée avec ma guitare dans une espèce de grand manoir un peu délabré. Et tout est devenu nouveau. Le soleil, la lune, le riz, le raisin, tout était dans une autre langue nouveau.
C'était un séjour de langue, Florence Delay. L'idée était de... Oui, revenir sachant l'espagnol.
Sachant l'espagnol, c'est un grand mot. Mais c'était donc l'année où j'ai redoublé et où la directrice du lycée a dit à ma mère, envoyez-la au pays des langues vivantes. Et c'est comme ça qu'au printemps, je suis allée en Angleterre et l'été, j'ai été en Espagne. Et là, effectivement, ces voyages ont été déterminants parce que j'ai choisi l'Espagne et pas l'anglais. Et pourtant, l'autre famille aussi anglaise était très intéressante. J'ai même rencontré un fantôme. Mais je crois que j'ai préféré les fantômes de l'autre côté des Pyrénées.
La rencontre avec l'Espagne, c'est aussi une rencontre avec Federico García Lorca. Comment les œuvres complètes, las obras completas de ce grand poète, arrivent dans vos mains, Florence Delay?
Eh bien, c'est au retour du voyage espagnol que René Char, auquel ma mère m'a présenté avant le départ, c'est lui qui sentant comme ça le choc qu'a été le séjour et peut-être les premiers poèmes que sans lui j'ai découvert, il m'offre les œuvres complètes de Lorca qui viennent d'être publiées, parce que jusqu'alors il est pratiquement un poète interdit, puisqu'il a été assassiné au tout début de la guerre d'Espagne, en 1936, à Grenade, sa Grenade. Et ce volume, c'est le premier livre précieux que j'ai. Et dans ce livre, il y a des dessins de Lorca. Et c'est alors que je commence à imiter sa signature, et je fais un F de Florence absolument démesuré, comme un coup de girafe. Parce que lui faisait Federico avec un F énorme. Et il y a aussi la musique populaire qu'il a enregistrée, puisqu'il a travaillé avec Manuel Lefaya dans sa jeunesse. Et il y a, j'apprends sur ma guitare toutes les chansons qu'il a retranscrites et les poèmes. La musique, le dessin, tout ça s'entrecroise. Il devient un premier amour. René Char m'offre une photo de lui, pas de lui René Char, mais de Federico, et commence mon aventure espagnole avec lui.
Nous sommes dans les années 50. Que saviez-vous, Florence Delay, de la politique en Espagne, de la dictature de Franco, de la guerre civile? Qu'en saviez-vous à cette époque, à 15 ans?
À 15 ans, rien. Rien. Je tombe dans une famille où on appelle Franco le juif, el judío, et c'est une famille, je comprendrai après, de monarchistes, qui sont anti-franquistes par amour du roi. Et je ne sais rien. Et je découvrirai l'histoire, la politique et l'histoire, quelques années après, non point par la guerre d'Algérie, qui correspond à mes années d'adolescence, mais par la guerre d'Espagne, quand je travaille sur un autre poète très important, magnifique, qui s'appelle Miguel Hernandez, et qui est engagé du côté de la République, et où pour faire mon sujet de mémoire de maîtrise sur lui, je dois rencontrer les amis qui restent, ceux qui l'ont connu, et où brusquement je découvre le gouffre entre les deux Espagnes.
Et là, vous êtes à Madrid pour ces recherches?
Oui, à Madrid.
Et vous allez rester combien de temps à Madrid?
Alors là, je fais un saut dans le temps, parce que c'est à l'époque où je ferai, après ma licence, où je ferai un mémoire de maîtrise. Je n'ai jamais vécu longtemps en Espagne. Ça a toujours été très bref. Je la connais très peu, finalement. Peut-être qu'un jour, je vais faire un grand voyage en Espagne, avant de mourir, peut-être. Mais je la connais peu. Je suis allée en Andalousie, en Castille, du côté de Tolède, mais je la connais peu, finalement. Mais je la connais...
Vous connaissez
beaucoup.
Son histoire, sa littérature.
Je connais tous les paysages qui ont été décrits. Je n'ai pas été dans le pays de Don Quichotte, mais croyez-moi, la Manche, je la connais aussi bien qu'un habitant de la Manche.
Don Quichotte, c'est un peu le premier chevalier, quelque part.
C'est le premier chevalier. C'est en effet le premier chevalier. Et bon, c'est un de mes livres les plus aimés, dont je m'émerveille toujours qu'il ait été écrit pour soi-disant nuire au roman de chevalerie, alors qu'il est le dernier roman de chevalerie et le premier roman des temps modernes. Oui, c'est...
Qu'est-ce qui vous fascine chez Don Quichotte, Florence Delay?
Sa foi idéaliste. Et il croit, dur comme fer, à ce qu'il lit. À ce qu'il lit et aux prouesses qui consistent à défendre les pauvres, les humiliés, les galériens, la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire l'idéal chevaleresque. Bon. Et que, contre vent et marée, il mène son aventure avec Sancho pour le dialogue. Mais ce qui me fascine peut-être le plus, c'est Cervantes, parce qu'au début, on a l'impression que Cervantes en fait un héros comique. Et puis, petit à petit, Cervantes s'éprend de lui. Et il commence à éprouver de plus en plus d'affection pour l'ingénieux Hidalgo. Et c'est exactement ce qui se passe pour nous. Et quand à la fin, à la toute fin, après la seconde partie, parce qu'il y a eu un tel succès de la première partie qui a eu une continuation apocryphe jusqu'au moment où Cervantes... reprend la parole et fait mourir son héros pour être sûr que plus personne ne le lui prendra. À la fin, Don Quichotte tombe malade et puis s'endort et se réveille en disant « Je me suis trompé. Tout ce que j'ai vécu était illusion. »
C'est terrible.
Et Sancho pleure et nous aussi. Et Sancho lui dit, mais non, c'était vrai, mais non, le mathémagicien Merlin existe, mais tout était vrai. Non, dit Don Quichotte. Et ça, c'est le retournement le plus douloureux de la littérature, en tout cas pour moi.
L'appel de l'Espagne, c'est donc la littérature, et puis ça va devenir la langue elle-même. Vous préparez, Florence Delay, une agrégation d'espagnol. Et en juillet 1966, vous apprenez que vous êtes recalé à l'oral. C'était... Vous y attendiez? C'était une grosse déception?
Je m'y attendais. À vrai dire, je n'ai pas préparé l'agrégation de Gaieté de cœur. J'avais fait une licence, un mémoire de méprise. De méprise, mon Dieu. Quel beau lapsus. Mémoire de maîtrise. Mais mon grand amour, c'était le théâtre. Puis, des circonstances de la vie privée ont fait que j'étais mise en face d'un choix. Il fallait ou gagner ma vie, ou... Et donc, j'ai préparé l'agrégation. Mais avec tristesse. Sauf que le programme était tellement passionnant que je me suis laissée embarquer à nouveau. Et quand j'ai été recalée, j'ai été la première recalée à l'oral. Et je me suis dit, bon ben voilà, le destin a parlé, je ne passerai pas l'agrégation, je vais retourner au théâtre. Et alors, il y avait un professeur extraordinaire, Maurice Moyot. C'est lui qui a fait l'édition des romans picaresques espagnols dans la Pléiade. Maurice Moyot était président du jury. C'était un grand philologue. Il boitait et il élevait un ménate chez lui. Et donc, on était tous fascinés par lui, par sa boiterie, par le ménate. Et en boitant, il m'a dit « Oui, Florence Delay, je vois bien à quoi vous pensez. Vous vous dites « C'est pas pour moi, tous ces concours. Vous vous dites « Je vais faire autre chose. Je veux écrire. » Alors que c'était... Eh bien, écoutez, vous allez me faire le plaisir de recommencer immédiatement à préparer le concours parce que vous avez tout le temps de faire ce que vous aimez après. » Et cette conversation a été capitale. Je me rappelle, c'était dans la cour du lycée Henri IV. On a fait le tour, il boitait, là, et il disait « Vous allez me faire le plaisir de vous remettre tout de suite au travail et vous passer l'année prochaine. » Et il avait raison. Et j'ai remis ça. Et je suis sortie seconde. La première, je le précise, étant espagnole. Elle s'appelle Milagros Esquerdo. Je me souviens encore.
C'était une revanche.
C'était pas une revanche, c'était un grand soulagement. Et alors, figurez-vous que le jury m'a reçu et m'a donné mon assignation. Et je devais commencer à enseigner au lycée Jeanne d'Arc de Rouen.
Les cercles de la vie.
Voilà.
Florence Delay, au préalable, vous aviez préparé un mémoire sur Hernandez.
Voilà.
Mémoire pour lequel vous étiez à Madrid.
C'est cela.
Et dans le cadre de ce mémoire, vous commencez des recherches et vous recherchez les personnes vivantes qui ont côtoyé Hernandez pour vos recherches. Et c'est comme ça, donc, que vous rencontrez José Balgamín.
Exactement. Oui. Je ne connaissais pas du tout cet écrivain. Et j'ai été voir, en fait, le directeur d'une revue, Cruciraya, qui était sa revue, où Balgamín avait publié la première pièce de théâtre de Miguel, qui était un acte sacramentel, inspiré de Calderón. Et cette rencontre a été pour moi déterminante. Je me souviens. Balgamín m'avait donné rendez-vous après une conférence qu'il prononçait. C'était une conférence qui portait sur la censure, sujet risqué. Et j'avais été très frappée de la composition de la salle. Il y avait deux rangs, les deux premiers rangs, aux deux premiers rangs étaient assis des hommes avec un imperméable. Et puis après, enfin c'est dans mon souvenir, et après il y avait des hommes âgés et des jeunes gens. Et en fait, la salle était pleine de républicains, avec leur petit-fils. Et c'est comme cela que je l'ai connu. Et après, je l'ai beaucoup, beaucoup vu. D'abord parce qu'un mois après, il allait être à nouveau exilé d'Espagne. Il allait être exilé à Paris. Et c'est là où j'allais... Régulièrement, je l'ai vu, que j'ai commencé à apprendre de lui, à le traduire, et où il m'a ouvert alors toute une autre Espagne qui était la sienne.
On n'a pas rappelé, c'est vrai, que José Balgamín était donc un dramaturge, un poète, aussi une figure intellectuelle de l'Espagne. Il est né en 1895, et donc il a été exilé.
Oui,
c'est-à-dire plusieurs reprises.
À plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il a été de ceux qui ont pris le parti de la République, bien que catholique et d'une famille attachée à la monarchie. Il a pris très clairement fait et cause pour la République, qu'il a représenté, pour lequel il est allé à New York et à Moscou chercher des soutiens. Et puis il est parti à la fin de la guerre. À la défaite de la République. Il est parti en 1939, il a d'abord été exilé en Amérique latine, au Mexique, puis au Venezuela, puis il est revenu une première fois. Puis il a de nouveau été exilé à cause de ses prises de position. Et puis il est rentré une dernière fois. Et voilà, c'est une vie, une grande vie douloureuse. Et dont la deuxième moitié contraste terriblement avec la première. Parce que la première, c'est la génération de 27, la génération poétique éblouissante, une sorte de siècle d'or espagnol. Il est l'ami de Lorca, il est l'éditeur de Lorca, du poète à New York. Il est... Et c'est une période si heureuse que... D'ailleurs, il divisait lui-même sa vie en deux. Il disait, la première partie de ma vie s'est achevée en 36, où je suis mort. Et la deuxième partie de la vie était... Donc tout cela a été pour moi très, très marquant. Et...
Vous dites souvent que José Balcamín, Florence Delay, était votre ami, mais vous dites aussi qu'il était votre maître.
Oui. Oui, parce que il était un modèle. Et comme tous les maîtres, il était cruel. C'est-à-dire qu'il ne craignait pas de vous blesser. Mais en même temps, il y a une page très belle de lui où il explique que par la blessure entre la lumière. Et ce n'est pas faux.
Et nous ne pouvons pas ne pas mentionner dans cet appel de l'Espagne l'aficionada que vous êtes, Florence Delay, c'est donc cet amour de la tauromachie. À quel âge entrez-vous pour la première fois dans une arène pour assister à une corrida ?
Mon grand-père était maire de Bayonne, et étant maire de Bayonne, c'est lui qui lançait les clés du toril dans les arènes aux alguacils. Et il se trouve que je dois avoir 16 ans, il me donne une place pour une corrida mythique, qui est un mano a mano, c'est-à-dire deux toreros qui s'affrontent d'une certaine façon, qui étaient Antonio Ordóñez et Luis Miguel Domínguez. Donc ma première corrida a été entre deux très grandes figures de la tauromachie, très opposées. Et c'est une corrida fameuse, disais-je, parce que Ernest Hemingway, qui suivait Antonio Ordóñez et Domínguez cet été-là, était là, la très belle Ava Gardner aussi. Voilà. Mais la corrida n'a vraiment été est devenue une source, une école pour moi, qu'à travers les livres de Balcamín. L'art de Birlibirloqué ou l'art d'Abracadabra, il y a quelques essais taurins de José Balcamín qui sont extraordinaires, qui dépassent de beaucoup la tauromachie. Et qui nous montrent donc que la tauromachie n'est pas seulement l'art de taurer dans une arène, n'est pas seulement la course de taureaux telle qu'elle est accusée ou persécutée, c'est une école. C'est une école de courage, de morale, et puis j'ai envie de dire une école de rien du tout, parce que j'étais à Nîmes au mois de septembre, que j'ai vu taurer José Tomás, et qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a que de la grâce. Il n'y a que de la grâce, de l'émotion. Et je crois que pour 13 500 personnes, ce qui s'est passé à Nîmes est inoubliable.
De José Balcamín, vous traduisez aussi la solitude sonore du toreo, titre dont originel en espagnol était la música callada. Del toreo, et donc de la musique tue, vous traduisez la solitude sonore.
Le Balcamín s'explique sur son titre, il est emprunté à Saint Jean de la Croix, au cantique spirituel. Et les deux vers se suivent, la música callada, la soledad sonora. Et donc Balcamín dit qu'ils veulent dire la même chose. Or, en français, la musique tue du toré, la musique tue, la musique silencieuse, c'est pas ça. C'est tue au sens malarméen, n'allez pas. Alors, j'ai sauté au vers suivant. Parce que la solitude sonore du toréo, en français, voilà. Et ça a été très, très difficile. Balcamín est très, très difficile à traduire. Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est de traduire pour tout le monde en mettant le lexique taurin dans la marge pour que les aficionados s'y retrouvent très vite, mais pour que celui qui ne connaît pas la course de taureau puisse lire ce livre autrement, comme un traité d'autre chose.
Est-ce que dans la traduction de cette phrase, on retrouve l'essence et en même temps la difficulté de la traduction ?
Oui. Une des difficultés, en dehors du problème du lexique taurin, une des difficultés, vous voyez, c'est que Bergamine, comme beaucoup de grands Espagnols, joue tout le temps avec les mots. Et le jeu de mots, c'est la chose la plus intraduisible au monde, parce que c'est le génie de la langue. Voilà, c'est là une des grandes difficultés.
Merci, Florence Delay.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son François Rivalan, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mélanie Chalandon avec Florence Delay.